pour cette présentation, si on prend en compte la personnalité particulière de notre invité, qui est, je le rappelle, entre autres, président de l'Oulipo, et pour rester cohérent avec la lecture qu'il va nous offrir, il m'est apparu indispensable de respecter quelques contraintes. La principale sera de faire court, mais sans exagération, sans pour cela aller jusqu'au haïku, même sous sa forme argentine. Pour faire court, j'envisage dès lors de ne pas du tout parler de Jaime Montestrella, laissant à Hervé Le Tellier le soin de vous le présenter, à moins que vous n'ayez lu Electrico W, son très beau roman qui se déroule à Lisbonne et où il est beaucoup question de cet auteur portugais, par ailleurs notoirement méconnu, comme aurait dit Alexandre Vialat. Pour faire court, il n'est pas non plus nécessaire de s'interroger sur les compétences linguistiques de l'auteur, ni tenter de traduire en portugais la célèbre formule « L'auteur oulipien, c'est un rat qui compose lui-même le labyrinthe dont il essaie de sortir ». Évidemment, sans même se poser la question de savoir s'il s'agirait d'en faire une traduction antinomique ou homophonique. Pour faire court, on peut aussi négliger de parler de Baptiste Botul, philosophe tout aussi notoirement méconnu que Jaime Montestrella. Montestrella, dont, soit dit en passant, le nom traduit en français signifie « la montagne des étoiles », Sternberg en allemand. Mais pour faire court, n'insistez pas, je ne vous parlerai pas de Jack Sternberg, auteur des contes glacés, car je vous rappelle que nous sommes ensemble pour écouter des contes liquides, hommage de l'un à l'autre, ou transformation chimique, résultant peut-être de la dernière canicule estivale. Pour faire court, je me contenterai également de mentionner en passant le Goncourt 2020, mais sans m'apesantir sur ce point. D'abord parce que le livre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et que donc, statistiquement parlant, une partie de l'Assemblée l'a déjà lu ou relu, et que pour les autres, cette anomalie se doit d'être corrigée par un passage express auprès de nos libraires. Ensuite, parce que, j'en suis persuadé, Hervé Le Tellier ne me cherchera pas sur ce point des papous dans la tête. Pour faire court, enfin, je n'utiliserai pas le mot « bombe », des oreilles mal intentionnées pouvant être à l'écoute, sachant que personne n'est à l'abri de son passé. Cette contrainte de faire court étant désormais posée, je peux donc commencer ma présentation. Hervé Le Tellier est né le 21 avril 1957 à Paris, comme moi. Enfin, moi, c'était en août et en Alsace, mais on s'en fiche. Il est diplômé en mathématiques, en linguistique, en journalisme. Il a écrit pas mal de trucs, des romans, des poèmes, des chroniques, des essais, du théâtre, des billets d'humeur, et même des lettres à François Mitterrand et à ses successeurs. Je le redis, passez voir nos libraires en sortant. Et comme moi, il galipote de moins en moins. Mais surtout, il a magnifiquement traduit Jaime Montestrella. Et pour notre plus grand plaisir, il est présent à Nantes ce soir pour vous en lire quelques extraits choisis. Il me pardonnera, je l'espère, cette courte présentation un brin déjanté.
Merci beaucoup. Bien, après avoir quelque peu merdé avec le keynote, nous sommes enfin prêts. Merci beaucoup. Cette présentation se fera en deux parties. Une partie où je parlerai, une partie interactive, et oui. Je vous distribuerai, je peux le faire tout de suite d'ailleurs, ces feuilles. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une vingtaine, mais si vous voulez les faire passer, elles serviront tout à l'heure. Et j'aurai besoin à un moment donné de l'ouvrage que je n'ai évidemment pas avec moi, car il est bien connu que les auteurs ne se trimballent jamais avec leurs livres. Et donc je ne l'ai pas, mais j'en aurai tout à l'heure besoin. Donc au nom de l'association des amis de Jaime Montestrella, je voudrais vous remercier d'être présent à cet exposé sur cet auteur effectivement notoirement méconnu, comme dirait Vialat, et remercier l'équipe de Mille et Une Nuits Poésie qui me permet d'honorer sa mémoire ici. Certains des contes seront illustrés par Patrice Kilofer. Et c'est un peu par hasard que je suis tombé sur un exemplaire des Contos Aquosos de ce poète portugais, alors que j'explorais la bibliothèque d'un de mes amis, Lisboetes. Il s'agit d'un petit livre d'un millier de contes, qui baroque, entre guillemets, de quelques lignes à peine. Il avait été publié en 1973 par un éditeur portugais, dont je n'ai pas retrouvé la trace, malheureusement, les Edições da Figueira. Alors, le premier conte que j'ai lu était celui-ci, qui était fort court. « Na ilha da Tahiroa, na sexta-feira santa, os canibais convertidos ao cristianismo o comien marineros. » C'est le seul moment où vous entendez le portugais, mais ça se traduit par « Sur l'île de Tahiroa, le jour du Vendredi Saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. » Alors, j'ai tout de suite eu envie de le traduire et de les proposer aux lecteurs francophones. Une partie de l'humour de Montestrella, malheureusement, s'est perdue dans la traduction. J'en suis seul responsable. Et nous nous sommes volontairement limités à 366 dans le livre. J'en lirai beaucoup moins, évidemment. Un nombre symbolique qui permet d'en lire un par jour, même les années bissextiles. L'ordre respecte celui de l'ouvrage, même si, dans l'ouvrage lui-même, Montestrella s'est permis des réorganisations. Mais avant de lire ces contes, merci infiniment, je voudrais évoquer leur logique et présenter brièvement Jaime Montestrella. Nous disposons de très peu d'informations sur Jaime Montestrella, même à la Biblioteca Nacional de Portugal. Nous savons qu'il est né en 1925, en juin, à Lisbonne, et il appartient à cette génération d'écrivains lusitaniens des années de dictature salazariste qui compte dans ses rangs Augusto Abaleira, ou Eugenio de Andrade, qu'il a peut-être connu. Après des études de médecine, il est psychiatre à l'hôtel Miguel Bombarda de Lisbonne, jusqu'à ce qu'il publie en 1950, sous le nom de Jaime Caixas, un recueil de poésie engagée, Prisão, prison, dont Marguerite Duras, j'ignorais qu'elle parlait portugais, vantera le rythme douloureux, presque martyrisé des syllabes. Le pseudonyme de Caxas n'est pas choisi au hasard, puisque c'est le nom de la prison où, sous la dictature de Salazar, sont torturés les prisonniers politiques. Alors, assez vite démasqué, arrêté par la PIDE, la police politique, Montestrella est interrogé brutalement pendant une semaine, puis relâché. Comme beaucoup, il décide de s'exiler au Brésil et il s'installe en 1951 à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est dans cette ville qu'il écrit « Nihil Obstat », son unique roman, une fulgurante drôlatique très inspirée de Stern, et qui s'appelle « Ciudad de Lama »,« Cité debout », un livre magnifique dont André Malraux devra dire que c'est un essai magistral et funambulesque sur la solitude et l'exil. C'est aussi à Rio qu'il fait la connaissance d'un autre exilé, l'écrivain et critique Jorge de Sena, à qui il dédie justement Cidade de Lama. Et bien sûr, il va quitter, à la suite du renversement de la démocratie brésilienne par les militaires, il va quitter le Brésil pour rejoindre Paris, où il compte quelques amis. Il s'installe d'abord dans un petit deux pièces à Belleville. Et à partir de 68, il commence à écrire les contes, les Contos Aquosos. L'après-midi, à la Palette, un bistrot du quartier latin, il croisera ses amis du groupe Panique, de Jacques Sternberg, mentionné, à Fernando Arrabal ou Alejandro Jodorowsky. Alors, sur cette photo, vous pouvez reconnaître, lors de leur première réunion du groupe, de gauche à droite, Daniel Émile Forc, Alexandro Jodorowsky, Jacques Sternberg, Fedorov, Fernando Arrabal, Topor, très reconnaissable avec sa pipe, Lys Arrabal et Toyen. Et malheureusement, ce serait l'occasion de voir qui est Montestrella, mais c'est lui qui tient l'appareil photographie et qui prend donc cette photographie historique. C'est vraiment dommage. Alors, Montestrella collaborera à l'éphémère revue Mépris, éditée par Kesselring, et c'est au regretté Jacques Jallet que l'on doit l'unique publication en français à titre posthume de quelques contes dans sa revue Le Fou Parle, un magazine étrange et inspiré, audacieux et libertaire. Alors, Les archives de l'Oulipo gardent trace d'une réunion plénière le 12 septembre 1974, un jeudi, où Montestrella est invité d'honneur. Jaime Montestrella, malheureusement, meurt le 8 novembre 1975 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il sort d'un déjeuner au restaurant Polydor avec plusieurs écrivains, dont Jacques Binns et Raymond Queneau, tous deux de l'Oulipo, Jacques Sternberg et Roland Topor. Et d'ailleurs, Roland Topor et Jacques Sternberg, ça a été mentionné, ces deux amis, publieront ensemble, quelques années plus tard, les Contes glacés, qui sont, à mon avis, un hommage transparent et touchant à leur ami disparu, qui a écrit, bien sûr, les Contes liquides. Voilà. Alors maintenant, il est temps de passer aux contes. Il manquait à mon exemplaire des Cantos Acuosos, le cahier des 32 pages, et donc les contes numérotés de 264 à 405. Montestrella les a écrits sur une période de 3 à 4 ans, à raison d'un par jour ou presque. Et donc, ce sont des contes de type gymnastique, comme il le note dans son journal de bord. C'est abusivement qu'on appelle ça des contes, parce qu'en fait, ce sont qu'une minuscule nouvelle autour d'une idée unique, avec une structure très répétitive, et je vous prie déjà d'avance de me pardonner. Un lieu, une vallée perdue, une planète lointaine, presque toujours une datation précise, un sujet, parfois collectif, acteur du récit, et puis la description d'un fait qui peut paraître absurde. L'écrivain est obsédé par la logique de l'absurde, l'absence de Dieu, le temps qui passe, qui fonde notre humanité, finalement. Il recopie le conte du jour, il l'envoie par la poste à un destinataire dont les carnets, dont ces carnets gardent parfois la trace. Nous en avons retrouvé certains. Alors, il est temps de passer enfin à la lecture des contes. Et je vais commencer donc par le premier. Voilà, le premier. Sur l'archipel de Gayoc, Philippines, les insulaires savent compter jusqu'à 457, mais pas au-delà. Par la suite, pour la suite, ils disent beaucoup. La chose peut étonner, d'autant que 456, c'est déjà pas mal. Conte numéro 2, avec le dessin de Kilofer. Les chercheurs du Helsinki Science Institute ont prouvé le 1er janvier 1955 que si vous parvenez à conserver un flocon de neige dans la main sans qu'il fonde, c'est que vous êtes mort. Conte numéro 3. Sur les berges du fleuve Atipopopo, Brésil, vit la tribu des Tiotuopes. Les Tiotuopes sont végétariens, mais ils font une exception à leur régime pour la viande des piranhas, pêchée dans des filets tendus lors de la joyeuse cérémonie dite du recyclage des anciens, à l'occasion de laquelle les plus âgés du village prennent un dernier bain. Alors, ce conte, et c'est parfois le cas, et un dédicataire. En l'occurrence, on a seulement les initiales CB. Alors, c'est sûrement Claude Berge, 1926-2002, mathématicien, explorateur et par ailleurs membre de l'Oulipo. C'est également le conte numéro 9 qui est un dédicataire. C'est un certain JT. Alors, sans doute Jean Tardieu, 1903-1995, qui était aussi un habitué du restaurant à la Palette. Et voici ce conte. Le 13 mai 1965, le conseil municipal de Pine Gulch, Utah, 32 145 habitants, décida d'expulser de la langue tout vocable afférent à la sexualité. Très vite, on interdit des mots innocents de kangourou à nuage, soupçonnés de remplacer les mots interdits. Puis, le silence lui-même devint suspect. Aujourd'hui encore, mieux vaut éviter Pine Gulch et plutôt passer par Beerwoods en prenant la SR204. Autre conte. Malgré les efforts, tous les efforts déployés par Brillat Savarin depuis 1787, puis par les plus grands cuisiniers, pour retrouver cette recette qu'adoraient les Hébreux, le veau d'or, ont été vains. Des tests effectués à l'université de Princeton sur le corps d'Einstein après sa mort en avril 1955 ont prouvé que le cerveau du savant était plus petit que la moyenne et avait un léger goût de noisette. Le grand mathématicien indien Salmarijan a établi en 1895 que si vous avez aujourd'hui deux fois l'âge que vous aviez quand vos enfants étaient trois fois plus jeunes que vous, c'est que vous êtes plus âgé qu'eux. Selon les théologiens du Vatican Research Center pour Houblon, l'évangile canonique de Jean, dans laquelle Jésus change l'eau en vin, Jean 2, 9, est très clairement contredit par un évangile apocryphe, celui injustement écarté du canon, celui d'Affligème, où Jésus change l'eau en bière. Alors, notons le caractère parfois associatif des contes, puisque le suivant est celui-ci. Un célèbre point de partage des eaux près de Langres, il est de tradition, après plusieurs bières, d'uriner successivement dans les directions du nord, du sud et de l'ouest, afin d'irriguer à la fois la mer du Nord, la Méditerranée et l'Atlantique. Plus personne ne pisse vers l'est, mais c'est principalement à cause du vent. Les meilleurs cabarets de Zorka, capitale de l'Ouzbékistan, proposent une attraction typique, le drestise, où les drestiseuses arrivent nues sur scène et se rhabillent peu à peu. La tension est à son comble quand elles enfilent enfin leur long kodjar de bure sous les vivas de la foule surexcitée. Le sage Warad Sapara a écrit dans ses réflexions du moment d'avant le sommeil que la liberté de penser sera encouragée le jour où l'on se sera bien assuré que tout le monde aura bien cessé de penser. Le jeune Willibald Houston, 9 ans, a prouvé le 11 mai 1980 à 13h07 dans le Grand Canyon de l'Arizona que, contrairement à ce que l'on peut voir dans les dessins animés, lorsqu'on court plusieurs pas dans le vide, la gravité existe quand bien même on ne regarderait pas en bas. À la suite de l'atroce assassinat de Hanmundur Gunnarsson le 19 mars 1954, la légiste de Reykjavik, Adelsberg Robertsdóttir, a pu établir que le meurtre avait eu lieu précisément dans la nuit du 21 septembre 1953 au 21 mars 1954. Selon le médiéviste Ludovic Pouchet, 1887-1965, le guerrier franc à qui Clovis a lancé « Souviens-toi du vase de Soissons » avant de le frapper mortellement de l'épée, ne s'en souvenait pas du tout. Dans la ville de Chianesi-Ombrie, Italie, à Mardi Gras, il était coutume que chacun échangeât son esprit avec celui d'un autre, les femmes jouant aux hommes, les enfants aux parents, et la chose valait aussi pour les animaux. Et l'on pouvait voir les souris jouer cruellement avec les chats. La municipalité a dû y mettre un terme définitif en 1819, après que l'échange entre vaches et mouches eut tourné au drame. Le département de probabilité de l'université de Guadalajara, Mexique, a prouvé que si, en vous promenant aléatoirement, vous abordez plusieurs fois une personne, toujours la même et toujours par hasard, et que chaque fois elle se trouve être l'un de vos très proches, voire votre femme, voire même votre enfant, c'est qu'en fait vous vous promenez chez vous. Sur l'île de Pergos, sous le règne de Tolude Ier, la loi interdisait de prendre quoi que ce soit si l'on ne donnait simultanément. Les habitants ne buvaient que lorsqu'ils urinaient, ne mangeaient que lorsqu'ils déféquaient. Dans ces conditions, il était difficile, lors des banquets, d'apprécier le fumet des plats. L'art culinaire de Pergos se dégrada jusqu'à l'invasion perse du IIIe siècle avant Jésus-Christ, invasion qui mit un terme salutaire à l'ordre toludéen. Alors, le conte dédié suivant est à Marcel Duchamp, sans doute rencontré grâce à Raymond Queneau. Les habitants d'Ingelkulsheim, Bavière, 2398 habitants, sont si disciplinés qu'en octobre 1997, un feu tricolore bloqué sur le rouge provoqua la mort par déshydratation de 3 familles immobilisées dans leur voiture. Un autre conte dédié à Vernon Sullivan, son Boris Vian donc, est décédé en 1959. On retrouve en effet ces deux noms du conte dans des personnages du roman « Et l'on tuera tous les affreux ». Dans les années 1950, à Long Ride, Alabama, Joshua Grunbaum, un garagiste juif antiségrégationniste, apposa à l'entrée de son établissement le panneau « Interdit aux voitures noires ». Son ami d'enfance, Oliver Hamilton, un grand noir toiletteur de chiens et chats, installé juste en face, renchérit par une affiche « Interdit aux animaux israélites ». Enfin, un conte dédié à RN, sans doute Richard Nixon, 1913-1994, président des États-Unis en 1973, lorsque Montestrella écrivait ses contes et démissionnait en 1974, que Montestrella appréciait modestement. Donc voici le conte. Il se trouve qu'aujourd'hui, il revêt une actualité particulière. Les chercheurs de l'Institut for Democracy de Washington, États-Unis, ont prouvé en novembre 1978 qu'en additionnant des conneries individuelles, on avait une chance très faible de parvenir à une sagesse collective. James Link, 1953-1981, du Nevada Road Safety Institute, Las Vegas, a prouvé le 13 octobre 1981 à 18h45 que la vitesse est dangereuse sur route pour la bonne raison que plus les gens roulent vite, plus il faut rouler rapidement pour les dépasser. Les chercheurs de l'Institut d'éthologie animale d'Arcachon, France, ont prouvé que chez l'huître, la conscience d'exister augmente très fortement au moment du citron. Les chercheurs du Modern Dance Institute, Philadelphie, ont prouvé qu'il est absurde et cruel que les ballerines de l'opéra passent le plus clair de leur temps sur la pointe des pieds, alors qu'il suffirait de les choisir plus grandes. La vie conjugale de l'ornithologue James Garwin connut en mars 1979 un tournant radical, après qu'il eut annoncé, triomphant, lors du congrès de zoologie de Graz, Autriche, « Contrairement à ce que l'on a toujours écrit, le bruant à calotte fauve n'est pas plus monogame que vous et moi. » Si les Atakas, peuple pygmé du nord de l'Angola, pensent que Dieu est l'ombre du hasard, avec les conséquences que l'on imagine, ce n'est pas par hasard, mais pour contredire systématiquement leurs ennemis héréditaires, les pygmées Akata, qui pensent au contraire que c'est le hasard qui est l'ombre de Dieu. Le grand moufti de Bagdad a décrété en l'an 846 de l'Hégire que la lune est bien plus utile que le soleil, car c'est la nuit qu'on a le plus besoin de lumière. Le philosophe prussien Wilhelm Schlimmst, dans son Tractatus Logico-Aestheticus, a prouvé que le monde se divisait en deux, les choses trop belles pour être vraies, var, et tout le reste trop laid pour être faux, falsch. Depuis 1883, en Angleterre, les règles du jeu de cricket sont exactement les mêmes quand il pleut que quand il pleut. Une enfance anglaise. Voilà. Le président du Kilofer Health Institute a tenté de démontrer à cet interlocuteur, policier, hélas en vain, à l'occasion d'un contrôle routier le 11 juillet 2010 à minuit, que quand il y a 14% d'alcool dans le vin, il reste 86% d'eau, ce qui est tout de même énorme. Les chercheurs du Princeton Institute of Ethology ont prouvé dès les années 1950 qu'il est statistiquement deux fois plus facile de rester fidèle à deux partenaires qu'à un seul. Le 4 février 1956, Joan Humphrey, habitant Rumville, Connecticut, s'apercevant qu'elle était mariée à un homme qui la trompait avec l'épouse de son amant, qui était le meilleur ami de son époux, découvrit par la même occasion que la femme de son mari n'était rien d'autre que la maîtresse d'un type que sa conjointe légitime, laquelle était sa meilleure amie, déshonorait en la trahissant avec son époux. Ce fut un choc. Le sage Warad Sapara disait souvent, vers la fin de sa vie, que ce qui est affreux quand on commence à perdre la mémoire à court terme, c'est qu'on se met aussi à perdre la mémoire à court terme. Le Vatican a mené le 23 juillet 1934 un test de communion en double aveugle avec des hosties placebo. Les résultats de cette expérience sont encore tenus secrets. Sur les berges de la rivière Kojima, Nigeria, les autochtones fument les célèbres fleurs de nénuphar pourpre. Préparées et séchées durant des jours, elles présentent l'avantage médical de n'être ni excitantes, ni sédatives, ni hallucinogènes, ni même cancérigènes. D'ailleurs, ils en fument une et après, ils passent à autre chose. Les habitants de Sichuk, l'Ouzbékistan, célèbrent chaque année la fête du hasard. Ce jour-là, chacun soumet ses décisions à un jet de dés. Beaucoup se saisissent de cette occasion pour démissionner, divorcer, voire partir très loin, enfin agir, enfin, tout en pouvant accuser le hasard. Certains rejouent d'ailleurs plusieurs fois. La direction des musées nationaux a le regret d'annoncer que le célèbre tableau de Courbet, L'origine du monde, qui représente un sexe de femme, est en fait le premier versant d'un diptyque dont le second, La fin du monde, a été égaré au début du siècle dernier. On se perd en conjectures sur ce qu'il représentait. Johannes Vermeer, 1632-1675, dont 34 œuvres attestées seulement nous sont parvenues, hélas, a tenté de peindre quelques faux Vermeer, et y est même magistralement parvenu pour 7 tableaux, faussement attribués à des faussaires, dont 2 à l'escroc Van Meegeren. Les habitants du village de Slattamoilin, Irlande, ont très peur des revenants. Aussi font-ils signer à toute personne à l'agonie une lettre où elle s'engage, en cas de décès, à ne pas revenir sur Terre en télévivant. Pour l'instant, les morts s'y tiennent. Aloysius von Bockstel, expert au Van Ruys Museum, a démontré que, dans la peinture de Bruegel l'Ancien, les jeux d'enfants, une huile sur bois peinte en 1560, le petit garçon à culotte blanche et chemise rouge, au centre du tableau, triche. L'illusionniste Benoît Loisenon a prouvé que si l'on coupe une femme en deux, puis cette moitié en deux, ce quart encore en deux, et qu'on recommence le tour trop longtemps, le numéro finit par lasser le public. Les chercheurs du département d'éthologie animale de Darmstadt, Sussex, ont démontré en mars 1962 que si une chaussure vous va comme un gant, c'est que vous êtes un singe. À la fin du XIXe siècle, deux amis peintres méprisés du public, Edgar Bourlet, 1850-1891, et Vincent Van Gogh, 1853-1890, se sont amusés toute leur vie durant, par dépit, devant leur double échec commercial, à échanger leurs signatures sur leurs tableaux. Les possesseurs d'une toile, signée Edgar Bourlet et réalisée donc par Vincent Van Gogh, doivent néanmoins savoir qu'elle ne vaut rien. Les chercheurs de l'Institut d'éthologie animale de Hambourg doutent que les cafards se mettent vraiment à courir en tous sens dès qu'on allume la lumière. Ils font valoir à juste titre qu'il se pourrait bien qu'ils soient déjà en train de courir en tous sens dans l'obscurité. Le 12 décembre 1973, les 4 douaniers de Biggelsheim sur la frontière franco-allemande fondèrent dans l'enthousiasme l'association Douaniers sans frontières, qui n'eut hélas qu'une existence éphémère. Les statisticiens de la Stratford-upon-Avon University ont démontré que le théorème du singe dactylographe, qui prouve qu'un singe qui taperait au hasard sur un clavier, et ce depuis le Big Bang, n'aurait néanmoins qu'une faible chance d'avoir tapé le texte de Hamlet. Eh bien, ce théorème s'applique nettement moins bien si ce singe est William Shakespeare. Les chercheurs du Eichrank Institute de Berlin ont définitivement démontré en avril 1967 que lorsqu'on s'installe dans un frigidaire, réfrigérateur, pour vérifier que la lumière de celui-ci s'éteint vraiment lorsqu'on referme la porte, on n'a plus aucune preuve que la lumière de la cuisine soit encore allumée. Le célèbre 20e et exégète reconnu de Paul Claudel, Jeanne Douillard, a enfin pu prouver en février 1973 que le fameux soulier de satin est un soulier de droite et de taille 41. C'est le 21 février 1943 que la Gestapo, à la suite d'une dénonciation anonyme, procéda à l'arrestation d'un groupe tout nouvellement créé, les dénonciateurs anonymes, où se réunissaient des individus qui tentaient de se débarrasser de cette mauvaise habitude. Selon le singe Warat Sapara, le monde est un puzzle d'un nombre infini de pièces auquel il en manque une. Le paléontologue Samuel Stein, du Neanderthal Institute of Neanderthal, Allemagne, a prouvé que les peintures rupestres représentant des paumes d'hommes des cavernes démontrent que ceux-ci après s'être cogné trop de fois dans le noir et s'être frotté le son ensanglanté, avait acquis la prudence de marcher les mains devant. Les chercheurs de l'Institut d'études bibliques du Vatican, qui travaillaient sur les lettres de Paul aux Corinthiens, ont découvert le 3 mai 1886 les lettres de Corinthiens à Paul et ont préféré les brûler. La petite sirène de Port de Copenhague, cette jeune fille à queue de poisson, réalisée en 1913 par Edvard Eriksen en découpant une statue de jeune fille et une autre de poisson, puis en les soudant. Financée par les brasseries Carlsberg, ce projet lui a permis de concevoir un deuxième projet en soudant les deux moitiés résiduelles, une seconde statue, celle d'un poisson à jambes de femme, laquelle est immergée, on l'ignore trop souvent, dans les eaux du port. Ce n'est pas sans un certain étonnement que les mêmes chercheurs de l'Institut d'études bibliques du Vatican, qui travaillent sur les lettres de Paul aux Corinthiens, ont découvert le 8 mai 1987 les lettres de John, George et Ringo aux Corinthiens. Sur la planète HX-897, les êtres vivants ont 6 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la galice. Alors comment définir la galice? Cela leur permet d'éprouver le bleu pâle d'un mi-bémol et de respirer le sucré d'une pierre polie. Au Népal, le débat y fait rage depuis le XIIIe siècle de l'ère de Mujo. Les monothéistes disent que Dieu est un. Les polythéistes croient que Dieu est vraiment multiple. Les absentéistes savent qu'il s'est barré. D'après de récentes fouilles dans le Sinaï effectuées par les archéologues Samuel Herzog et Hans Wassermann, le peuple élu ne l'a été qu'au deuxième tour et à 53% seulement. Les historiens de la Zürcher Geschichte Gesellschaft ont découvert que non seulement le fils de Guillaume Tell s'appelait Walter, mais qu'il avait eu un frère aîné, Gunther, un peu plus grand que Walter et au destin malheureux. L'organisation d'entraide des alcooliques anonymes s'inquiète depuis 2001 de la concurrence grandissante d'un groupe, les anonymes alcooliques, qui réunit les individus tombés dans ce fléau qu'est l'alcoolisme, parce que personne ne les connaît. François Vatel, 1631-1671, a prouvé en juillet 1669, lors de l'anniversaire de Nicolas Fouquet, que si l'on est chaque fois content de découvrir la cerise sur le gâteau, on est encore plus heureux de découvrir la présence d'un gâteau sous la cerise. Les psychiatres du centre hospitalier de Sainte-Anastase, Québec, ont constaté que lorsque deux fous marchent côte à côte, une première difficulté vient du fait qu'ils veulent tous les deux se mettre au milieu. En 1923, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, postulait que le psychisme est constitué de 3 instances. Le « ça », « s », le « moi », « ich », le « surmoi », « über ich ». On s'interroge encore sur les raisons de la disqualification des concepts pourtant subtils de « sous-moi », « unter ich », et de « sans-moi », « ohne ich ». C'est avec difficulté que la théorie du Big Bang s'est imposée, face à toutes les hypothèses concurrentes, et en particulier face à celle du Little Boom, du Small Bing, et de celle scientifiquement très audacieuse du Great Splash. Selon Bria Savarin, la recette du pain perdu a été inventée par Josiane Perdu en 1627, et elle a été perdue en mars 1632. Le pain perdu que nous connaissons ressemble beaucoup à la recette de sa fille Anne Perdu, mais c'est tout ce qu'on peut en dire. Les chercheurs des laboratoires Sandoz ont découvert le 23 octobre 1965 le Spitonal, le premier médicament au monde pour lequel il n'existe encore aucune maladie. Je saute celle-là. On va aller un peu vite. Les chercheurs du département d'éthologie animale de Darwin, Australie, ont découvert en février 1975 le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Il s'appelait Robert. Il habitait l'Auvergne, France, mais son lieu précis de résidence est resté tenu secret jusqu'à sa mort en août 2011. C'est le 11 janvier 1889 que Émile Boirac, 1851-1917, inventa le terme de déjà-vu. Cette sensation à la fois d'irréalité et de familiarité, cet instant étrange où le présent semble appartenir à la mémoire. Il eut d'ailleurs à ce moment le sentiment d'avoir déjà formé le mot voici peu, tout comme celui qui lit ce conte liquide peut l'avoir déjà entendu autrefois. Les chercheurs du Darwin Institute de Cambridge ont calculé que les conférenciers créationnistes, qui, comme preuve de l'existence de Dieu, prennent argument de la perfection de l'œil humain, portent pour 68% des lunettes. Les théologiens du Vatican Institute for Faith ont découvert que si, c'est l'Apocalypse de Jean 13-18, le nombre de la bête est 666, alors 333 est le nombre de la bébête. C'est en mars 2003 que l'artiste conceptuel Jeff Nooks réalisa une immense allumette de 323 mètres de haut, faite uniquement de minuscules tours Eiffel. Afin d'éviter que des gens connus soient reconnus par des inconnus lorsqu'ils se rendent incognito aux alcooliques anonymes, les alcooliques anonymes ont créé une section alcoolique connue anonyme où les gens connus peuvent parler incognito de leur addiction en n'étant reconnus que par des gens connus qui ne souhaitent pas non plus être reconnus. Selon le linguiste Ferdinand Saussure, 1857-1913, le premier homme à manger du pain a pu croire jusqu'à l'invention du mot « pain » qu'il mangeait des gambasses. Et enfin, les chercheurs du Dortmund Allergy Institute, ayant découvert en décembre 2014 que vivre enfant avec un animal limite plus tard les allergies, recommande, afin de mieux supporter notre monde, de s'entourer le plus tôt possible d'abrutis. Voilà, merci beaucoup. Je sais que quelqu'un arrive juste derrière, je vais m'autoriser 5 minutes d'interaction. J'ai distribué des petites feuilles avec un index thématique. J'ai prévu de lire une petite 5 ou 6 contes liquides. Si vous avez la gentillesse de me proposer dans cette liste des thématiques, une thématique. Voilà, vous avez vu qu'il y a addictologie, âge, créationnisme, erreur, philosophie, logique, intelligence, sage ou arate sapara, statistique, etc. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes. On va en prendre 5 juste pour montrer d'autres petits travaux pris au hasard, si ça vous va. Hein. Voilà. Donc j'attends un son et j'y vais.
Théorie du genre.
Théorie du genre. Théorie du genre. Théorie du genre. Théorie du genre. Il faut que je m'habitue au fait que c'est classé par ça. Alors, sur la planète Citara, il existe 5 sexes. Les macas, les fitus, les jipus, les jimini et les gojo. Les macas pondent les œufs, les fitus les activent génétiquement, les lipus les fécondent, les jimini les couvent jusqu'à l'éclosion, les gojo nourrissent les larves jusqu'à leur autonomie. Ça ne devient vraiment compliqué que pour les familles recomposées. Séduction. Au Pédjoukistan, l'esprit rayonne d'une aura puissante et visible, mais son intensité, sa couleur et sa taille varient beaucoup d'un individu à une autre. C'est un atout majeur de séduction, et avant les vacances d'été, il n'est pas rare de voir les jeunes gens se ruer dans les bibliothèques et courir les musées pour mieux briller sur les plages du lac Pedjou. La planète XFD-23 est la seule planète connue où les hiérarchies animales le long de la chaîne alimentaire, suit exactement l'ordre alphabétique. L'abeille dévore l'acarien, qui dévore l'aigle, qui dévore l'albatros, etc., etc. Le zébu est l'unique herbivore. Paléontologie ? Alors, 130. Les paléontologues de l'université de Chamonix, Haute-Savoie, ont découvert en janvier 1978 que l'homme de Cro-Magnon inventa le vin bien avant de maîtriser le feu et qu'il lui fallut encore attendre longtemps avant de boire un vin chaud. Voilà, et la dernière ? Intelligence artificielle. Le jour où les machines devinrent intelligentes, le 13 décembre 2044, à mon avis, ce sera plus tôt, elles se cherchèrent aussitôt un dieu. Certains le trouvèrent dans la machine à coudre Singer, 1936, d'autres dans le presse-agrumes Westwood, 1945, certaines enfin dans la moissonneuse-batteuse Kubota, 2015. Sans la guerre des religions qui s'ensuivit, la race humaine aurait sans doute été exterminée. Merci beaucoup. Bravo.